Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Face à l'impasse politique, les Israéliens retourneront voter une deuxième fois en 5 mois. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas réussi à former un gouvernement de coalition entre le camp laïque et le camp religieux de sa formation. Nous irons sur place dans un instant. Vous entendrez ensuite les excuses du patron de Boeing, ses premières excuses depuis les crashs de 2 avions de sa compagnie. Dans ce journal, nous nous pencherons aussi sur les négociations au Parlement européen. Les députés non affiliés sont convoités par les groupes parlementaires. Ils veulent grossir leur rang. Et puis, quelle politique face aux enfants de djihadistes retenus en Syrie ? Le défenseur des droits évoque un traitement inhumain et interpelle le gouvernement français. Nous nous intéresserons à cette possible prise en charge. Le Parlement israélien est donc dissous depuis hier par les députés eux-mêmes. Moins de 2 mois après les législatives, de nouvelles élections devraient être programmées pour la mi-septembre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a échoué à former une coalition et il sort de ces négociations sérieusement fragilisé, Étienne Monin.
Quand il entre dans la salle plénière de la Knesset, Benjamin Netanyahou ne cache ni sa nervosité, ni sa contrariété. Il vient de perdre en quelque sorte les élections qu'il avait triomphalement remportées quelques 2 mois plus tôt. Il a échoué à constituer, comme il l'avait promis alors, une majorité stable de droite. Benjamin Netanyahou est fragilisé par cet échec. Il n'a pas vu arriver la menace. Il n'a pas réussi à trouver une porte de sortie. Il ne semble plus en mesure de faire voter à temps son parapluie légal pour se protéger des poursuites judiciaires qui vont le rattraper d'ici l'automne. Même s'il pourrait rester le favori de sa base électorale, il entraîne maintenant tous les Israéliens dans son besoin de garder le pouvoir. La dissolution de la Knesset n'était pas le seul chemin légal. Elle va coûter très cher et encore paralyser la vie politique pour 4 mois. On est loin de la stratégie mise sur pied par le Premier ministre en décembre dernier quand il décide de provoquer des élections anticipées pour échapper aux poursuites judiciaires.
3 sommets sont organisés dans le Golfe Persique en 2 jours, aujourd'hui et demain. L'Arabie Saoudite réunit les pays du Golfe, puis la Ligue Arabe autour d'elle. Une démonstration de force face à l'Iran qu'elle accuse indirectement d'avoir saboté 3 pétroliers et 1 cargo au large des Émirats Arabes Unis. C'était il y a 3 semaines. Tension au plus haut donc en ce moment. C'est la première fois qu'il prenait la parole depuis le mois de mars. Le PDG de Boeing s'est exprimé hier sur la chaîne américaine CBS. Après les accidents des Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines et de Lion Air qui avaient tué 346 personnes, Dennis Muilenburg a reconnu hier des erreurs dans le déploiement du signal d'alerte. Il était censé, ce signal, avertir des dysfonctionnements du système anti-décrochage des avions. Dennis Muilenburg s'est donc excusé.
Je présente personnellement mes excuses aux familles. Nous sommes terriblement désolés de ces 2 accidents. Encore une fois, nous sommes désolés pour ceux qui ont perdu un proche. Nous porterons toujours cela en nous. En tant que dirigeant de cette entreprise, cela m'affecte personnellement. Malheureusement, je ne peux pas changer ce qui est arrivé. Mais si je le pouvais, je le ferais. L'engagement que je prends, c'est que Boeing va faire tout son possible pour s'assurer de la sécurité de nos avions.
C'était le patron de Boeing, traduit par notre correspondant outre-Atlantique, Grégory Phillips. Parallèlement à la course à la présidence de la Commission européenne, un autre grand marchandage a lieu en ce moment, et ce depuis dimanche, depuis les élections. Beaucoup plus discret, celui-là, dans les couloirs du Parlement, c'est la chasse aux eurodéputés nouvellement élus, ceux qui n'ont pas encore de groupe attitré, car la taille des futures formations est importante au Parlement, Marie-Pierre Véraud.
Le temps de parole, l'ordre des prises de parole, notamment lorsqu'un chef d'État est invité, les postes importants, la qualité des commissions, sans oublier les moyens techniques et financiers, tout cela dépend du nombre d'eurodéputés, d'où la chasse à ceux qui n'ont pas encore rejoint un groupe, bien sûr en toute discrétion, comme l'explique Elisabeth Morin-Chartier, eurodéputée sortante.
Ça se passe de façon extrêmement discrète, plutôt en tête-à-tête, plutôt avec 2 tasses de café de part et d'autre de la table, et très souvent c'est au bar Mickey à côté de l'hémicycle que ces choses-là se préparent. Il faut savoir observer, il faut savoir qui parle à qui, qu'est-ce qui est en train de se préparer.
Important pour les grandes formations, leur ralliement peut être vital pour les plus petites, car pour constituer un groupe, il faut rassembler au moins 25 députés issus de 7 pays différents. On va donc parfois courtiser un eurodéputé qui apportera la nationalité manquante. C'est alors moins une question de nombre que de critères. En 2014, cette règle des 7 pays avait ainsi empêché Marine Le Pen de constituer un groupe pendant plus d'un an, et elle parlait toujours en dernier. Ceux qui ont gagné dimanche en France n'ont donc pas forcément encore gagné en Europe. De même, des groupes pourraient se dégonfler demain. Si les Britanniques quittent l'Union, les centristes perdraient ainsi les Lib Dems. Nécessaire enfin, la taille n'est pas suffisante pour peser, car au Parlement européen, il n'y a pas de discipline de vote. Les eurodéputés peuvent voter selon des lignes nationales, faisant fi de celles de leur propre groupe. À l'heure du vote, on perd forcément des voix dans ses propres rangs. Il faut donc être à même d'élargir sa base, de bâtir des compromis, de rallier 3 voire 4 formations pour l'emporter, quelle que soit sa taille. Nul n'est donc tout seul faiseur de roi à Strasbourg.
Marie-Pierre Véraud pour France Culture. Un procès équitable. Selon le ministre français des Affaires étrangères, les 7 Français condamnés à mort en Irak pour leur appartenance au groupe État islamique ont bénéficié d'un procès équitable. Jean-Yves Le Drian l'a dit hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors que les avocats des familles de ces djihadistes dénoncent une justice expéditive en Irak, ils réclament leur jugement en France. Et leurs enfants, que deviendront-ils? Ils sont certains à être retenus en ce moment dans des camps en Syrie. Hier, le défenseur des droits a appelé la France à faire cesser les traitements inhumains contre ces enfants. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, elle, a écrit au gouvernement français pour lui demander de rapatrier sans condition tous ces enfants. Mais le gouvernement s'y refuse pour le moment et rapatrie au cas par cas. Ainsi, 6 mineurs sont revenus de Syrie en mars dernier et sans le moindre souci, affirme Marie Derain. Elle est secrétaire générale du Conseil national de la protection de l'enfance.
La plupart de ces enfants, ils arrivent par Roissy Charles de Gaulle et quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont accueillis par le département dans lequel ils arrivent, c'est-à-dire principalement la Seine-Saint-Denis. Et là, s'organise ce qui classiquement se met en place en protection de l'enfance, une évaluation de la situation, la réalité de ce qu'ils ont vécu. Il y a évidemment un sujet pour les adolescents qui est leur éventuelle participation à des actes terroristes aussi. Et à ce moment-là, on est dans une évaluation qui ressemble davantage à une évaluation sur les ressorts des enfants guerriers, un protocole aussi autour de la santé, et notamment pour les tout petits. On s'est aperçu très vite, dès 2016, que c'était des enfants qui étaient très souvent en sous-développement, malnutris, avec des maladies liées à des problèmes d'hygiène. Et puis, ils sont ensuite accueillis le plus souvent dans des familles d'accueil, le temps de faire une évaluation pour vérifier quelles conditions d'accueil potentielles dans la famille de ces enfants est envisageable, ou sinon pour organiser un accueil en protection de l'enfance durablement.
Des propos recueillis par Léa Gedge. Plus de 8 milliards et demi de litres d'eau sont consommés chaque année en France dans des bouteilles vendues par exemple en supermarché. Un chiffre qui donne le vertige surtout aux défenseurs de l'écologie. À Paris, la mairie veut ainsi inciter les habitants de la capitale à réduire cette consommation et privilégier l'eau du robinet. L'idée est de devenir la première ville zéro déchet. Explication d'Emmanuel Calafiore.
La mairie de Paris encourage ses habitants à arrêter d'acheter de l'eau en bouteille. En effet, celle du robinet et des fontaines de la ville est de très bonne qualité. Le projet du Paris de l'eau est résumé par Célia Bloel, adjointe à la mairie.
Inciter les Parisiens à boire l'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est aussi celle qui coule aux 1200 fontaines que vous trouvez dans Paris. Abandonner définitivement le plastique et adopter la gourde. Et puis, c'est aussi que les Parisiens fassent attention à leur comportement et pourquoi pas deviennent ambassadeurs de cette action.
Paris, première ville zéro déchet plastique, forcément les grands groupes agroalimentaires vont perdre des clients. Mais Benjamin Gestin, directeur général d'Eau de Paris, ne voit pas d'autre issue possible.
On n'est pas très loin du moment où les consommateurs vont simplement dire non à la bouteille en plastique. J'espère simplement que ces grands acteurs, qui aujourd'hui fonctionnent selon un modèle, vont nous suivre dans une démarche de limitation ou suppression des déchets plastiques.
À la place des bouteilles, des gourdes réutilisables, elles sont en plastique végétal. Membre de l'association Surfrider pour la protection et la sauvegarde des océans, Diane valide ce type de plastique recyclable.
L'idée, c'est vraiment de réduire en tout cas tout ce plastique inutile, ce plastique à usage unique, se concentrer sur une production de plastique qui peut être réutilisable, durable. L'objectif, c'est qu'il n'y ait aucun plastique qui se retrouve dans l'environnement.
Il ne reste plus qu'à remplir la gourde dans l'un des 1200 points d'eau de la ville. Pour les retrouver, il suffit de télécharger le plan des fontaines de Paris.
Et notez qu'une campagne Paris de l'eau sera lancée ce week-end. Plus de 50 000 gourdes seront distribuées gratuitement. La pluie va quitter le nord de l'Hexagone petit à petit ce jeudi pour laisser place à de belles éclaircies de la Bretagne à l'Alsace, mais pas avant la fin d'après-midi. Ailleurs, le soleil se fera une place dès ce matin pour débuter un long week-end de l'Ascension, largement ensoleillé et surtout très chaud. Ce matin, comptez déjà 16 degrés à Lille et Rennes, 17 à Paris, 18 à Strasbourg et Bordeaux, 22 degrés à Marseille ce matin.